Alors, donc projet Wellcomics, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le groupe?
Bien sûr. Alors en fait, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps avec le chanteur, avec Sam. Depuis une bonne dizaine d'années, on se dit tous les deux qu'on devrait monter quelque chose. Et en fait, on a enfin trouvé le temps et l'énergie de le faire il y a à peu près un an et demi. C'était un moment dans notre vie à tous les deux où on avait une grande disponibilité et on s'est mis au boulot, en fait, tout simplement. Donc, dans un premier temps, on a commencé... Moi, j'ai proposé de la musique, j'ai maquetté des trucs à la maison, que j'ai proposé à Sam. Lui a commencé à poser des voix sur les musiques que j'ai proposées. Et petit à petit, il y a un corps qui a commencé à se constituer, avec les paroles, évidemment, qu'il a écrites pour toutes ses chansons. Et puis, au bout de 6 mois, on avait quand même suffisamment de musique pour se dire, bon, bah, peut-être que c'est temps d'essayer de lancer un groupe. Donc mon idée, c'était vraiment de monter un groupe de rock, quoi, c'est-à-dire à base de guitare et de basse et de batterie. En l'occurrence, une formule avec deux guitares, basse, batterie et chant. Donc on a réfléchi aux membres éventuels qui pourraient fonctionner dans ce contexte-là. Et les personnes auxquelles j'ai pensé ont tout accepté immédiatement. Donc le groupe s'est constitué très vite. Et on a commencé à répéter au mois de février. Et puis ça s'est mis en route tranquillement. Et en fait, les choses ont été un peu plus vite que prévu parce qu'on nous a proposé quelques mois plus tard d'enregistrer un album. Donc comme on était prêts, on s'est dit, bah ok, on fonce, on y va et voilà.
D'accord. Tu peux nous en dire plus sur les circonstances de ta rencontre avec Sam ou le premier contact que vous avez pu avoir?
Oui, alors on se connaît en fait en gros depuis une quinzaine d'années parce qu'à l'époque Sam il travaillait dans un club qui s'appelle le Caveau des Oubliettes à Saint-Michel où il y avait des jams en fait toutes les semaines, des jams blues, rock, funk, etc. Et moi j'allais souvent jammer là-bas à cette époque-là et souvent en fin de soirée, Sam il prenait le micro et il venait jammer aussi et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc on est devenus très potes, on a fait des buffs ensemble, à plus en finir, etc. Et on s'est aperçu en connaissant tous les deux qu'on avait des goûts qui étaient très communs pour certaines choses. Il y a une culture musicale très large, surtout dans tout ce qui était blues, rock, metal, voire death metal, etc. Et donc on s'est retrouvés d'accord sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est comme ça que petit à petit on a eu envie de travailler tous les deux, quoi. Donc ça a été le point de départ en fait de Wellcomics, ça.
D'accord. Parce que pourtant, vu de l'extérieur, peut-être sans trop connaître l'un et l'autre, on peut avoir l'impression que vous avez des univers très différents.
Bah oui, c'est vrai que c'est l'impression qu'on peut avoir. Mais en réalité, c'est pas le cas. On a des univers très très larges tous les deux et qui se recoupent très largement.
D'accord. Pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu donner les grandes lignes de ton parcours d'une longue expérience musicale avant ou parallèle à Wellcomics?
Oui, bien sûr. Alors, disons que parmi tout ce que j'ai fait, ce qui est le plus marquant, je pense, c'est déjà ma participation au groupe Magma. Mmh. Donc depuis 95 à peu près, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, 23-24 ans quoi. Donc ça représente évidemment une grosse activité pour moi, j'ai eu beaucoup d'albums, beaucoup de tournées, beaucoup de choses. J'ai appris énormément en faisant ça, Christian m'a aussi ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, sur la façon de composer, les phrases instinctives, etc. Donc je pense que ça m'a marqué d'une certaine manière. Et d'ailleurs je continue à travailler avec Magma, c'est pas fini bien sûr. Mmh. Sinon parallèlement à ça, j'ai toujours eu d'autres activités, alors dans des groupes où j'étais plus ou moins investi en tant que compositeur ou pas. Je pourrais citer parmi les choses très importantes pour moi le groupe One Shot, qui existait de 1997 à 2015. Qui était un groupe qui fonctionnait vraiment d'une façon collégiale, c'est-à-dire que tout le monde amenait des compositions, les morceaux étaient élaborés ensemble. Et par contre, c'était un groupe instrumental, c'était un quartet instrumental électrique qui était un petit peu à la croisée des chemins entre ce qu'on peut appeler la fusion et puis une formation plus rock, quoi. Donc ça, on a réalisé 6 albums en fait avec ce groupe pendant cette période-là. Là, j'ai beaucoup composé en fait pour cette formule. Ensuite, suite à ça, enfin parallèlement à ça, à partir de 2007 jusqu'à 2014, on avait monté avec Guillaume Perret le groupe Electric Epic, qui a beaucoup joué, beaucoup tourné à cette époque-là, où j'étais aussi beaucoup investi, peut-être pas tant en tant que compositeur, mais au moins dans la façon d'interpréter, dans les arrangements, et aussi d'une certaine manière dans la compo, en fait, à l'intérieur des morceaux. Et puis, depuis quelques années, en l'occurrence depuis 4 ans maintenant, on a monté un groupe avec Christophe Godin, très bon guitariste que tu connais peut-être, Franck Vaillant et Médéric Collignon, un groupe qui s'appelle Waxin, qui fonctionne un peu comme fonctionnait One Shot, c'est-à-dire c'est un groupe instrumental où tout le monde amène des compos, et voilà, c'est très collégial aussi. Et ça, ça continue aussi à exister aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, si tu veux, je participe encore à Magma, à Waxin, et puis surtout, bah voilà, je suis très investi avec Waxin Mix, qui commence à démarrer maintenant.
D'accord. Est-ce que tous ces projets en parallèle, donc du entre guillemets du gros quotidien qui est souvent Magma, qui sans doute prend énormément de temps quand il est en tournée ou en album, c'était aussi un besoin de. Bah, on sait que Magma c'est le projet Vendaire. Est-ce que c'était un moyen aussi d'exprimer une créativité qui n'était pas forcément possible au sein de Magma? Est-ce que l'idée c'était de dire bah t'es un créatif, Magma c'est pas forcément le meilleur champ pour la créativité parce que c'est très Vendaire, et donc t'avais besoin d'avoir d'autres projets pour justement sortir ça de toi?
Oui, bien sûr. Oui, c'était un besoin que j'avais, et puis un besoin aussi d'une expérimentation quoi, différente. Et puis ça m'a permis aussi de jouer des choses un peu différentes, dans le sens où c'était des choses plus rock, avec un son plus immédiat, un peu moins sophistiqué peut-être. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, quoi. Donc oui, j'ai toujours eu besoin de faire des choses en parallèle. Ça a toujours été le cas d'ailleurs.
D'accord. Sans prendre en compte la rencontre avec Sam et donc ce projet qui durait depuis quelques années de faire quelque chose ensemble, c'était aussi un besoin pour toi de travailler enfin sur un projet avec chant.
Avec
du chant.
Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'était essentiel. J'avais déjà fait des tentatives comme ça par le passé, mais qui à chaque fois avaient avancé pour différentes raisons, parce qu'au bout d'un moment les gars n'étaient pas disponibles, ou alors ils partaient, ou bref, on n'avait jamais pu aller au bout du voyage. Mais j'ai toujours eu en fait cette envie de monter un groupe avec une voix qui soit devant, qui soit expressive, assez forte, et voilà, et en fait on peut le réaliser aujourd'hui, j'en suis très heureux.
D'accord. Finalement, au sein de Welcomix, quel est on comprend bien que le fonctionnement que vous avez mis en place avec Sam, c'est que toi t'arrives, tu proposes une musique et lui il travaille toute la partie chant et paroles.
C'est ça. Voilà.
Toi, comment tu travailles? Comment naît un titre? Est-ce que t'as des habitudes, t'as un process?
Alors j'essaye de pas avoir d'habitude en fait. Par contre, j'ai un process qui est un petit peu toujours le même en fin de compte, c'est-à-dire que ça commence toujours à partir d'une idée qui est très très simple. En général, c'est un riff. C'est un petit riff de 2 ou 4 mesures, ou ça peut être aussi simplement un motif rythmique ou quelque chose de très très basique, et qui me donne envie de le jouer tout le temps. Donc quand j'arrive à choper ce que j'appelle une trouvaille, comme ça une petite pépite, je creuse à partir de ça, c'est-à-dire je me baigne dedans pour voir tout ce que ça peut m'inspirer, voir quelle porte ça peut m'ouvrir, est-ce que ça peut m'emmener sur une autre partie, est-ce que ça peut générer une autre mélodie, un autre riff, etc. Ou alors simplement des fois en extrayant certaines parties ou en les jouant dans un ordre différent, en modifiant certains paramètres. Ça peut être au niveau des notes, ça peut être au niveau du placement rythmique. Ou ça peut être aussi des fois en extrayant certaines notes, c'est-à-dire en simplifiant le truc, en enlevant une partie, en voyant ce qui reste, ou en jouant des compléments. Enfin bref, il y a tout un tas de façons comme ça après de voir un truc d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, une fois que j'ai creusé suffisamment, je me retrouve avec des éléments, si tu veux, qui sont comme des briques, à partir de laquelle je peux essayer de construire une chose. Et ça c'est d'abord progressivement, tu vois, petit à petit, une fois que j'ai tous ces petits éléments de composition, il y a un travail d'élagage aussi, c'est-à-dire il y a certaines choses qui au fil des jours vont me paraître un peu inutiles ou un petit peu surfaites, donc celles-là vont dégager peu à peu. Et au final, je me retrouve avec certains éléments qui me paraissent vraiment tout à fait essentiels et incontournables. Et donc, c'est ça qui me sert, en fait, à construire les morceaux. Et ça peut prendre un temps plus ou moins long. Des fois, ça peut aller très vite. Des fois, ça peut se faire en plusieurs périodes. Tu peux commencer à travailler sur un truc. Et puis, le laisser un peu de côté, y revenir un peu plus tard, etc. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Mais en général, ça va quand même relativement vite. C'est un petit peu comme une source qui apparaîtrait à un moment donné et que je vais essayer d'utiliser au maximum jusqu'à en trouver une autre, etc.
D'accord.
Ensuite, ce que j'essaye de faire, par contre, c'est d'un morceau à un autre, c'est vraiment de changer de piste. De façon à pas refaire deux fois le même truc, tu vois. Donc j'essaye à chaque fois de m'imposer vraiment une esthétique différente. C'est-à-dire par exemple si je vais faire un truc avec un riff un peu speed qui va peut-être me faire ressembler à tel ou tel groupe que j'aime ou que j'ai aimé. Le morceau suivant, je vais essayer de me dire bon allez ça on ferme la porte à ce genre de choses, on va essayer de trouver vraiment une chose différente, une autre piste, que ce soit harmonique ou rythmique ou au niveau de la maîtrise ou quoi. Et voilà, mais par contre j'ai pas de contraintes au niveau stylistique, il y a aucune barrière. Il n'y a que ça qui est permis, je m'interdis aucune exploration, et le seul guide en fait c'est ce que j'ai envie d'entendre sur le moment, ce qui me fait plaisir, ce qui me guide mon goût et où ce qui peut être plutôt instinctif quoi en fait.
D'accord.
J'essaie que ce soit pas non plus trop cérébral, tu vois.
Ouais.
Que ça reste instinctif et ressenti et vivant quoi.
Tu composes avec quel instrument?
Alors je compose sur la basse, hein, tout simplement.
D'accord.
Et ensuite, j'ai aussi une basse piccolo, c'est-à-dire une basse qui est plus petite et qui est accordée une octave plus haut, ce qui me permet d'avoir grosso modo une tessiture qui ressemble à une guitare.
Mmh.
Donc après, toutes les parties guitare, je les fais avec ça, j'enregistre comme ça à la maison. C'est comme ça que j'élabore tous les morceaux dans un premier temps.
D'accord. Mais donc qu'est-ce à dire, par exemple, là, sur ton téléphone portable, t'as, je sais pas, des centaines d'idées, des petits machins, des morceaux,
voilà,
et puis des petits bouts qui deviendront quelque chose ou rien, on sait pas trop.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas dans mon téléphone, c'est dans mon ordinateur, mais j'ai un dossier Cubase qui s'appelle Vrac.
Voilà.
Et là-dedans, je mets à peu près tous les trucs qui me passent par la tête et qui me paraissent intéressants.
D'accord.
Donc, c'est comme un tiroir, un fourre-tout, dans lequel je noterai sur des petits bouts de papier toutes sortes d'idées. Et puis ensuite, au moment opportun, si tu veux, je vais sortir ça, puis essayer de creuser une idée ou une autre, selon mon humeur du moment et ce qui peut m'inspirer. Et c'est ce qui me sert de point de départ en général.
D'accord. Il y a un titre sur l'album qui m'a pas mal marqué, qui est le second, là, Love Sick, Leech Pills.
Oui, oui.
Qui a cette rythmique très, très hypnotique, surtout avant que le chant démarre. On demande d'ailleurs si à un moment le chant va démarrer, on va rester sur cette espèce de truc très lancinant. Tu sais d'où ça vient? Enfin, tu te rappelles, il y a l'étincelle qui a créé cette espèce de rythmique, cette mélopée bizarre.
Alors le premier riff en fait de ce morceau-là, curieusement, il vient de la fin de Cashmere.
D'accord.
Mmh. Parce qu'il y a une époque où j'ai joué ce morceau en club avec un groupe, ça c'était il y a bien longtemps dans les années 90. Et en fait à la fin du morceau, tu sais, quand il y a cette partie avec le corps de la,
oui,
qui se balade sur les deux accords.
Mmh.
Et ben en fait sur ces deux accords, j'avais trouvé à l'époque ce riff qui permettait d'agrémenter un petit peu ce qui se passait. Et donc au lieu de jouer juste down 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 down, je m'étais mis à faire down 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 down
down down down down down down down down down down down down down down
down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down il faut s'en servir un jour ou l'autre, et c'était resté en vrac depuis ce moment-là, tu vois.
Mmh.
Et je m'en suis resservi pour faire ce morceau une fois que j'ai trouvé la deuxième partie, en fait. Je m'étais un petit peu inspiré parce qu'on peut entendre parler les groupes comme Tool, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Et je trouvais que les deux couleurs se mélangeaient parfaitement et étaient parfaitement complémentaires. Et voilà, il y avait juste après ce petit break au début à la fin pour finir la compo. En fait, ça, c'est un morceau qui tient sur presque rien, ce morceau-là. Il est, comme tu dis, très hypnotique, c'est une espèce de trance. C'est un disque qui peut tourner pendant des plombes et des plombes.
Mmh.
D'ailleurs, on l'a fait volontairement sur un tempo très lent, c'est-à-dire qu'il est hyper dur à jouer. Hein. C'est-à-dire que si c'est plus lent que ça, ça se casse la gueule. Quoi. On est vraiment à la limite de l'effondrement. Mais c'est ça que j'aime, c'est cette espèce de tension d'un truc qui en même temps paraît très lourd, très gros avec des gros sons, mais qui en réalité est très fragile. Donc il y a une espèce de paradoxe qui est le paradoxe de tout ce qui est vivant là-dedans. Et moi, c'est une chose qui me fait vibrer, ça, qui me fait plaisir en fait.
D'accord. Finalement, qu'est-ce que t'as fourni à Sam? T'as fourni des titres quasi finalisés? T'as fini des structures?
Juste les supports de musique, c'est-à-dire je m'étais bien gardé évidemment d'écrire trop de mélodies, d'écrire trop de choses, des thèmes de guitare ou quoi, pour laisser le maximum de place au niveau de l'inspiration pour la voix. Donc ce que je lui ai fourni, c'est grosso modo ce qu'on entend au final, si t'enlèves la voix. Il n'y a pas eu grand chose qui a été changé après, hormis le fait qu'évidemment les guitaristes et le batteur qui ont s'associé pour monter le groupe avaient après tout liberté au niveau des timbres, d'interprétation, pour mettre leur patte dedans. Mais grosso modo, c'était à peu près ce qui était prévu au départ, quoi. Donc voilà, en fait, si tu veux, je fais les morceaux en laissant beaucoup de place au départ, de façon à ce que Sam puisse entendre tout ce qu'il veut dedans. Et puis éventuellement, on retouche un peu une fois que les voix ont été posées. Je l'aide s'il y a besoin pour caler certains trucs ou préciser certaines choses, surtout sur le plan rythmique, des fois déplacer certaines phrases pour laisser plus d'espace ou quoi. Mais ça, c'est très très peu de choses, hein. C'est vraiment des petites retouches de trop fois rien. Et après, ce qu'on est amené à faire souvent, c'est à rallonger certaines parties par contre. Parce qu'on s'aperçoit évidemment, une fois que la voix est posée, qu'il y a des parties que j'ai prévues qui étaient trop courtes. Donc les morceaux, ils sont juste appelés à être allongés, là il va y avoir deux cycles au lieu d'un, etc. Mmh. Mais voilà, ça reste à peu près ça. Enfin, pour le moment, c'est comme ça qu'on a travaillé. Après, moi je pense que ça va évoluer, parce que là le groupe maintenant est vraiment constitué, il commence à avoir une vraie identité. Et moi j'ai proposé à tout le monde d'amener de la musique, hein. C'est-à-dire que je veux pas être le compositeur attitré, ni le chef, ni quoi que ce soit, il n'est pas question de ça. Donc j'ai dit à tout le monde au départ, bah les gars, si vous avez de la musique à proposer, allez-y, tout est bienvenu, toutes les explorations sont intéressantes, hein. Et donc là c'est ce qui est en train de se produire. D'accord. On a commencé à proposer des choses qui sont très intéressantes quand on a commencé à bosser, donc il y a de nouvelles musiques qui arrivent là.
Et voilà. Okay. Finalement, donc il y a 7 titres qui apparaissent sur l'album final.
Oui,
vous en avez avancé ou finalisé combien pour finalement 7?
À peu près double, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a, on a un programme sur scène avec une moitié qui correspond à cet album et une moitié qui est pour le moment inédite.
Et le tri s'est fait sur quelle base?
Pour faire le premier album.
C'est-à-dire, tu disais 14 titres et puis j'en ai 7 là-dessus. Pourquoi ces 7-là et pas les 7 autres?
Parce que au moment où on a enregistré, les autres n'étaient pas tout à fait prêts.
Ah d'accord, c'est que vous êtes beau, ouais. C'est la continuité du travail.
Il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait prêtes ou qui n'étaient pas finalisées complètement, ou même qui n'existaient pas encore à ce moment-là. Et puis bon, il a fallu choisir, hein, de toute façon, simplement. Donc après, on s'est basé aussi en fait sur l'ordre chronologique, tout simplement, dans lequel les morceaux avaient été composés. Et en fait, je me suis aperçu d'une façon très naturelle que si on prenait chronologiquement ce qu'on avait fait, il y avait une espèce de cohérence qui était évidente, donc on n'a pas cherché une idée 14 heures, quoi.
Mais donc ça sous-entend que t'as finalisé Meltdown et que d'une façon ou d'une autre, il a coloré le reste du disque.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les 7 morceaux qui figurent sur cet album, c'est en fait les 7 premiers morceaux sur lesquels on a travaillé.
D'accord, ok.
Voilà.
Ok.
Disons que si on porte un coup d'œil général sur ces 7 morceaux, il apparaît que pour moi c'est presque 7 planètes qui seraient dans un même système solaire, tu vois. Il y a vraiment une cohérence évidente, ils vont très bien ensemble. Après, ce qui va se passer pour la suite, c'est la même chose, sauf que c'est une continuité. Donc c'est vrai que on essaye à chaque fois d'avoir des pistes différentes, on essaie de faire des choses nouvelles. C'est-à-dire, j'essaye, comme je le disais tout à l'heure, de pas faire un morceau qui a déjà été fait, pour pas qu'il y ait de redites et qu'à chaque fois ce soit une autre découverte. Et donc, ce qu'on a prévu pour les morceaux suivants, c'est en fait des morceaux qui ont été faits immédiatement après, mais qui sont arrivés juste après.
D'accord. Je pense que tu en as dû en discuter avec Sam, mais est-ce que le chant en anglais s'est imposé tout de suite?
Oui, parce que Sam, en fait, maîtrise très bien cette langue, et c'est une langue, comme il t'expliquerait bien mieux lui-même, qui permet d'avoir plusieurs sens, parce que je crois qu'il y a moins de mots dans la langue anglaise et que les mots ont des sens multiples. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans la langue française, qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus pointue. Donc écrire en anglais, déjà moi je trouve de mon point de vue qu'au niveau du son c'est très intéressant parce que ça marche vraiment avec ce son rock du genre de groupe qu'on essaye de faire. Et surtout au niveau du sens, ça permet d'avoir un sens multiple. Donc une interprétation qui est beaucoup plus libre et qui va dépendre aussi de la personne.
D'accord, mais en plus je pense que c'est assez, sans sous-entendre que c'est eu un impact, surtout pourquoi l'anglais et pas le français ou autre langue, mais sachant que tu viens de Magma où la problématique de la langue est forcément une marque de fabrique du groupe, c'est assez surprenant. Enfin, c'est assez, on se demandait si c'était un objet de débat ou pas, pour vous.
Ça s'est fait tout à fait naturellement, le texte qu'il a proposé était en anglais, moi ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le son que ça avait aussi, hein. Mmh. Donc peut-être qu'il aurait proposé un truc en français, ça m'aurait plu de la même manière. Franchement, j'ai eu aucune gêne à ce niveau-là, et on trouve ça assez naturel, quoi.
D'accord. Le fait que ça soit un album éponyme, qui n'ait pas de titre supplémentaire par rapport au nom du groupe, faut y voir une volonté, une symbolique particulière ou?
Disons que mettre un titre à cet album, pour moi, c'était pas forcément nécessaire dans le sens où il aurait pu porter comme titre un morceau plutôt qu'un autre, ça voulait dire qu'on mettait un morceau en avant. Moi, j'avais pas forcément envie de ça. Je trouve que chaque morceau a son importance et son existence propre. Ou alors, il aurait pu porter un titre générique particulier. J'avais pas d'idée particulière. Moi, je pense que pour un premier album, c'est tout à fait suffisant. Je sais pas si on a parlé du sens du nom du groupe déjà ensemble.
Non, mais vas-y, je t'en prie. Au début
de conversation, voilà. Parce que Welcome X, en fait, ce que ça signifie, c'est, si tu veux, X veut dire ce qui est inconnu, comme au sens mathématique, d'une part, et au sens humain, ça veut dire tout le monde, tout un chacun, c'est-à-dire en même temps n'importe qui, en même temps tout le monde, tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles et conscients. Donc Welcome X, il peut s'entendre de notre point de vue, c'est-à-dire nous qui essayons de produire cette musique. En fait, c'est cette musique qu'on produit, avant qu'elle nous apparaisse, on la connaît pas. On sait pas du tout ce qu'on va découvrir. C'est comme un monde qui va être exploré, tu vois, une jungle qu'on connaît pas avec des animaux inconnus, etc. Donc ce Welcome X, c'est un encouragement pour nous-mêmes, si tu veux, à découvrir ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est un bienvenu à cet inconnu-là. C'est chose qu'on a en nous et qu'on ignore complètement. Okay. Voilà, ça c'est de notre point de vue à nous. Et ensuite, d'un point de vue beaucoup plus large, ça fait référence en fait à ce qui se passe quand quelqu'un écoute de la musique. Parce que je pense qu'une musique ne peut exister réellement qu'à partir du moment où quelqu'un peut écouter et avoir conscience de cette musique-là. Une musique qui serait jouée avec personne pour l'entendre, je sais pas si elle existe réellement. Je sais pas si c'est une musique ou si c'est du bruit ou si c'est rien du tout. Tu vois, je me pose cette question. C'est un peu philosophique, hein, comme truc, hein, mais voilà.
Non,
donc pour moi, c'est un grand mystère. Et donc, ce Welcome X, ça veut dire quoi? Ça veut dire bienvenue à tous les gens qui peuvent être sensibles à ça et qui ont envie de partager cette vision avec nous. Et d'en faire leur propre vision, leur propre sensibilité et peut-être d'y voir autre chose que ce que nous, on a pu vouloir y mettre ou vouloir y trouver. Donc c'est encore une fois bienvenue à l'inconnu, mais dans un sens de bienvenue à tous.
D'accord.
Voilà, c'est un truc positif en fait. C'est, parce que si tu veux au niveau des textes, je sais pas si t'as regardé un petit peu,
mais
ça peut paraître un petit peu pessimiste, parce que c'est une chronique de notre temps, mais pour moi c'est malgré tout un truc qui est plein d'espoir, et ce Welcome X, c'est au contraire une chose très très positive.
Ok. Attaché à la musique, donc il y a tout le visuel. Alors autant le visuel, la pochette elle-même est plutôt très sobre, autant il y a eu un gros travail réalisé sur le sur le livret. Alors c'est M, je sais pas comment ça se prononce, Mgalai ou Mgalai graphique.
Mgalai, voilà, oui. Alors en fait oui, on voulait en fait pour la pochette en elle-même c'était une idée à moi parce que je voulais que ce soit très peu figuratif et qu'on ne puisse pas imaginer et pas se faire une idée préconçue de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi je voulais juste figurer le nom du groupe, pas forcément très gros non plus, pas comme une enseigne publicitaire tu vois, mais un truc relativement discret avec un logo qui a été fait par Paul aussi. En fait il nous a proposé ce truc là. Au début on avait bossé sur le logo tous les deux là, et je trouvais que c'était une très bonne idée de s'inspirer dans un chromosome.
Ouais.
Parce que ça fait référence à la vie, à la puissance de la vie, ça fait référence aussi au dernier morceau de l'album, là, à Yam Life.
Mmh.
Je trouvais que c'était très très bien vu. Et après avoir fait ce logo, bah, il nous a proposé donc de faire des illustrations pour chaque morceau. Sachant que Paul était là vraiment avec nous au tout début, quand on avait commencé à faire les morceaux avec Sam, il passait à la maison, il écoutait les maquettes et tout. Il s'est vraiment imprégné de ce qu'on était en train de faire. Après, quand on a commencé à répéter, il venait souvent traîner. Quand on répétait, il écoutait les trucs. Donc, j'ai filé les maquettes, il écoutait ça chez lui. Donc, en fait, il connaît toute la musique aussi bien que nous, finalement. Et ensuite, à partir des paroles, en fait, il a fait, à chaque fois, c'est une illustration qui est en lien direct avec le propos des paroles de chaque morceau. Et toutes les illustrations qui ont été faites, en fait, c'est lié à lui, à Paul, hein. Il y a quelques petits détails après qu'on a ajusté ensemble, on lui a donné certaines pistes, voilà. Mais grosso modo, tout ce que tu peux voir qui a été dessiné, c'est vraiment un sasso, c'est lui. Et moi, je trouvais qu'il y avait une cohérence et que c'était très représentatif par rapport à ce que propose la musique. C'était un complément qui était vraiment super intéressant. Parce que moi, au départ, je voulais qu'il y ait des paroles, de toute manière. Je trouvais que c'était essentiel que les paroles figurent, parce qu'elles ont quand même une importance énorme. Et moi, qui parle pas très bien anglais, quand j'entends un gars qui chante en anglais, je comprends pas les paroles. Par contre, si je les vois écrites, là, je les comprends et je les entends, du coup.
D'accord.
Donc, je voulais, en pensant à tous les gars comme moi qui parlent pas bien anglais, que les paroles puissent être accessibles de cette manière-là. Et c'est Paul, après, qui nous a dit, ouais, mais si vous mettez les paroles, on pourrait mettre à chaque fois une double page avec les paroles d'un côté et l'illustration de l'autre. Et là, moi, je lui ai dit, écoute, c'est une super idée, donc vas-y. Fais tes trucs, tu nous montres, on en parle ensemble, et puis on fonce. Et c'est ce qui s'est passé, ça s'est fait très vite et très bien, et voilà.
Parce qu'il a quand même, il a un univers graphique assez particulier. Très intéressant, j'ai regardé ses pages hier, il y a
oui,
du travail sur différents groupes, plutôt assez extrême et assez particulier, mais c'est l'univers finalement se marie bien.
Oui, exactement. Mais c'était vraiment un gars c'était évident, tu vois, pour nous de travailler ensemble. Hein. Ça s'est fait vraiment avec le plus grand naturel.
Est-ce que vous avez des projets vidéo dans les tuyaux?
Alors, pas pour le moment, mais j'aimerais bien. On y pense très sérieusement et je pense qu'il va falloir trouver quelqu'un pour faire quelque chose avec nous à ce point de vue. D'ailleurs, toutes les propositions sont bienvenues.
Écoute, le message est passé. Il y a deux dates qui sont bientôt prévues à Paris et à Nantes.
Voilà. Alors, il y a des dates, en fait, qui correspondent à la sortie de l'album. Parce que là, l'album est déjà disponible, en fait, aujourd'hui auprès du label. On peut le commander sur le site www.letriton.
C'est ça.
Mais par contre, la sortie officielle, c'est le 29 mars.
D'accord.
Donc, il sera distribué à partir du 29 mars. Et donc, il y a deux concerts qui ont été programmés à peu près sur cette période-là. Le 22 mars à Paris au Backstage et le 23 mars à Nantes au Ferrailleur.
Et à quoi on peut s'attendre?
Eh ben écoute, Welcomic, enfin, c'est une inconnue, hein. J'espère que ça sera bien, j'espère qu'il y aura du monde, surtout que les gens vont apprécier. On va s'attendre, en fait, on va interpréter l'album dans sa majeure partie, je pense, plus à peu près une moitié du concert qui sera des morceaux inédits.
D'accord.
Voilà, mais ça va être, je pense, une grosse énergie, un gros son. Et voilà, on va retrouver cette énergie qu'on a réussi à mettre sur cet album. Ça, c'est évident, hein, les répétitions, là, sont très... Là, on a répété pendant la semaine dernière, là, ça se passe super bien, là, je suis vraiment très content de la forme que ça prend, là.
Et vous avez d'autres projets, il y a d'autres projets concerts qui s'annoncent,
pas pour le moment, mais j'espère que ça va venir rapidement, on va s'y employer de toute façon, et oui, il y aura d'autres choses.
D'accord. Juste une petite question, un peu en dehors de Welcomics, avec Magma, vous avez fait le Hellfest?
Oui, c'est génial.
Tu peux nous en dire un petit mot, quand même?
Ah oui, bien sûr. Bah écoute, c'était en 2016, là, le concert Hellfest, c'était en plus c'était vraiment à l'heure impeccable, c'était vers 21h je crois. Il y avait je sais plus comment s'appelle cette scène où on jouait là, mais c'est une scène, il y a une grande tente là, ça peut
je sais plus comment.
Ça doit être 8000 personnes sous la tente, un truc comme ça, enfin il y avait un monde de dingue. Et on jouait entre Earth et les Malvins. C'est des groupes que j'adore en plus, donc j'étais très content de les voir aussi à cette occasion-là. Et franchement, le retour, c'est-à-dire voilà, bah, ça rejoint un peu ce dont je parlais tout à l'heure à propos du sens de Welcomics, quand je parlais des gens qui écoutent la musique. Et là, j'ai ressenti une énergie de la part du public, c'est-à-dire j'ai vraiment senti que la musique passait, et qu'il y avait une énergie qui circulait entre les gens qui étaient sur scène et les gens qui étaient dans la salle. Et c'était, pour moi, c'était un des meilleurs concerts de ma vie, quoi. On avait un son qui était phénoménal. C'était vraiment une énergie énorme, quoi.
D'accord.
Donc,
écoute,
j'espère qu'il y en aura d'autres.
Oui, parce que vous aviez une crainte de trouver un public qui allait pas du tout être réceptif ou pas?
Non, pas du tout. Moi, je m'inquiétais pas. Peut-être c'était pas le cas de tout le monde, je sais pas, mais moi j'étais vraiment sûr que ça allait fonctionner. Hein.
D'accord.
Parce que je connais un peu ce public, je sais que c'est des gens très ouverts et je sais que si la musique est sincère et qu'il y a une bonne énergie, ça fonctionne. Et là c'est ce qui s'est produit. Mais par contre c'était dans des proportions auxquelles je m'attendais pas. C'était vraiment vraiment touchant. Hein. C'était super. Hein. Moi ça m'a boosté pendant des mois. Ça, hein.
Ok.
Ça m'a fait un bien fou.
Bah écoute, tant mieux. Juste pour terminer, on a deux trois questions plutôt sur les goûts musicaux de l'interviewé pour un peu essayer de mieux le cerner. C'est toujours difficile, mais est-ce que tu aurais un titre ou vraiment un album favori?
Favori. Alors ça change souvent les périodes, selon mon humeur. Je dirais parmi les groupes que j'aime énormément en ce moment, il y a le groupe américain Fleet. Voilà, et c'est vrai que le dernier album qu'ils ont sorti là, Silent Hill, il me touche énormément et j'ai un petit peu tendance à l'écouter en boucle en ce moment.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est un gros phare pour moi en ce moment. Et j'ai toujours été très sensible à tout ce qu'ils ont fait, ainsi qu'au projet de Alcineros là, qui s'appelle Home, tu sais là, celui du
groupe. Ouais, bien sûr.
Voilà, ça c'est vraiment une musique que j'aime d'une façon totale et inconditionnelle.
Et alors une question qui peut paraître un peu bizarre, mais qui moi m'intéresse. En tant que bassiste, est-ce que dans ta vie quotidienne, t'es spécifiquement, mais pour rien, hein, pour des bruits de la vie quotidienne, est-ce que t'es spécialement, comment dire, sensible au rythme?
Oui.
Tu vois, la pluie qui tombe, un
oui,
je sais pas quoi.
Oui, bien sûr.
Et est-ce que ça t'est déjà... Vas-y, pardon.
Pardon ?
Non, vas-y, je voulais pas te couper.
J'ai pas compris, excuse-moi.
Je voulais pas te couper.
Oui, bah, j'allais dire par exemple, tu vois, ça peut être des bruits de toutes sortes, aussi bien des bruits naturels que des bruits aussi humains, tu vois, de la vie de tous les jours. Mais par exemple, il y a une petite anecdote qui est assez marrante à ce propos. Dans le disque de Welcome X, Finders Keepers,
ouais.
Le troisième morceau, en l'occurrence, tu sais, il commence par un espèce de truc qui fait talin, 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 je sais pas si tu vois ce que c'est.
Ouais, bien sûr.
Et ben en fait, ça, ce truc, c'est un son que j'ai entendu une fois dans le métro, c'était une sirène. C'est une espèce de signal d'alerte de je sais pas quoi, qui faisait ça exactement sur ses notes avec ce rythme, et j'ai trouvé ça génial. Du coup, je m'en suis servi comme ouverture du morceau. Voilà. Ça vient de là. C'est un bruit humain, industriel, un petit peu accidentel, si on veut, et qui s'est transformé en poésie, finalement, quoi.
D'accord. Ouais. Bah, tu vois, c'était pas le premier, le clavier, dont là j'ai perdu le nom, de Porcupine Tree. Lui, il a fait un titre à la base, c'est les quatre petites notes du jingle de l'aéroport Charles de Gaulle.
Ah bah oui, voilà.
C'est un petit jingle, quatre notes qui annonce je sais pas quoi, et lui, ce truc-là, ça lui a tourné dans la tête et il en a fait un titre.
Oui, bah c'est ça. Bah tu sais, des fois, c'est ça, t'as un petit déclic à partir de... Oui, ça peut être des fois juste un rythme, simplement, qui va t'inspirer quelque chose. En fait, c'est comme un petit déclencheur. Ça te déclenche un truc que t'avais déjà en toi sans t'en être aperçu, forcément. Et là, ça appuie juste sur le bouton au bon moment et ça met le truc en résonance et ça apparaît, quoi.
Eh ben écoute, un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre.
Bah de rien, c'était un plaisir.
Et puis bah écoute, à très bientôt sur scène en tout cas fin mars à Paris.
J'espère.
À bientôt.
Bonne soirée à toi et merci beaucoup.
Ciao, merci.